Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Charles Compagnon. Il est conseiller municipal d'opposition à Rennes, président du groupe Libre d'agir pour Rennes. Et il est venu de Rennes précisément pour être avec nous ce matin au micro de la matinale en direct. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour Stéphane Hamon.
Alors on va parler, je le disais en commençant, politique, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en ce moment. Vous êtes très attaché à défendre la ville que vous aimez, la ville de Rennes. Et on vous voit un petit peu au gré des médias, des réseaux sociaux, vous exprimez par exemple sur des sujets importants pour les Rennais, beaucoup sur la sécurité à Rennes. Depuis qu'on s'était vu, vous étiez venu il y a quelques mois au micro de la matinale avec un constat plutôt, allez on va dire un constat assez édifiant sur la montée de l'insécurité à Rennes. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une amélioration ou est-ce qu'au contraire on reste toujours dans quelque chose de très compliqué?
Alors, j'aurais aimé vous dire que oui, ça s'améliore, puisque ça voudrait dire aussi que mes interventions ont peut-être changé les choses au niveau de la majorité. Malheureusement, et je le dis avec un ton grave, les choses se sont encore détériorées. Ils se sont détériorés dans les actes, ils se sont aussi détériorés dans la perception qu'ont les gens. Dernièrement, un de vos confrères a publié, s'est fait écho d'un classement. Et Rennes, aujourd'hui, est passée 7e grande ville de France dans les faits de narcotrafic. C'est-à-dire que maintenant, on est vraiment dans le top 10 des villes positionnées, par exemple, sur les actes et faits délictueux autour du narcotrafic. Et je ne vais pas vous faire ce matin, parce qu'une matinale ne suffirait pas, tous les faits divers, tous les coups de couteau, mais lundi encore, rien que sur une journée, 13h30, 19h30, place Sainte-Anne, centre Italie, on a encore deux personnes qui ont été attaquées au couteau. Voilà, on est vraiment dans une ville qui a, et j'ose employer le mot, basculé. Hein, on a mis tout ça sous le tapis pendant des années, et là, ça explose de partout, on ne peut plus le cacher. Et le dossier de la sécurité est aujourd'hui devenu central, pas pour les engagés politiques que je suis, est devenu central pour les Rennaises et les Rennais.
Avec un phénomène qui s'est amplifié partout en France, finalement, est-ce que c'est un phénomène qui dépasse, on l'aura bien compris, évidemment, les frontières rennaises, mais est-ce que c'est un phénomène, j'allais presque dire, naturel d'une société qui est devenue plus violente, plus dure, ou est-ce que des villes comme Rennes ont les moyens, ou peuvent se donner les moyens d'endiguer une telle violence?
Alors les villes, les maires ont les moyens d'agir. Il y a des degrés dans la dégradation de la qualité de la sécurité en France et nous avons effectivement des maires qui agissent. Je pense à ce maire de Saint-Laurent-du-Var par exemple qui a vu du narcotrafic arriver autour de sa gare et qui a envoyé immédiatement ses policiers municipaux pour éviter qu'un point de deal se positionne. J'ai été très sensible à cet exemple parce que ça veut dire que la volonté politique elle peut aussi endiguer la montée de l'insécurité. Et c'est vraiment l'action conjuguée de l'État, évidemment, et du maire qui a quand même, je le rappelle à vos auditeurs, le maire a la responsabilité de la sécurité, de la salubrité et de la propreté dans sa ville. Hein. C'est du domaine régalien du maire. Hein. Parfois, notre maire à nous l'oublie comme celle de Nantes ou de Paris, mais c'est vraiment de leur domaine de compétence. Donc avec de la volonté politique, rien n'est inéluctable.
Alors sur le narcotrafic, on voit aussi des changements d'habitude. Aujourd'hui, les points de deal, bon, ils existent toujours, mais on voit aussi, par exemple, la livraison de produits stupéfiants à la maison, un petit peu à la manière des livreurs de pizza.
Ce qu'on appelle le Uber Sheet.
Voilà, le fameux Uber Sheet. Que peut finalement un maire, une maire, face à ce trafic voilà, qui ne dit pas son nom et qu'on voit un petit peu moins, qui est moins visible finalement. Est-ce que là aussi, un maire peut demander plus de forces de police, plus d'effectifs, plus d'enquêteurs?
Alors, pour pouvoir demander, et votre question est extrêmement pertinente, quand on veut demander quelque chose à l'État, il faut aussi lui montrer des gages. Et on ne peut pas dire à l'État, on veut plus d'enquêteurs, et en même temps ne pas donner le nombre de caméras vidéo que demande l'État depuis 20 ans. Voilà, donc il faut montrer des gages à l'État pour dire, voilà, nous on va prendre notre part, et c'est ce que je défends, et après on exige de l'État qu'il fasse aussi lui son travail. Quant au Uber, ce qu'on appelle familièrement les Uber Sheet, c'est aussi d'avoir des contrôles sur leur vélo et sur les scooters, d'avoir des contrôles de transport, parce que le transport de marchandises alimentaires est réglementé, et à Rennes, on a très très peu de contrôles.
Justement, il y a ce problème, on pourrait le dire comme ça, des caméras. Aujourd'hui, on a des maires qui se sont exprimés. On pense au maire de Grenoble qui a dit, moi, les caméras, je les démonte, je les envoie chez M. Estrosi, qui est un fan des caméras dans les rues. À peu de choses près, c'était l'expression. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut sortir de ce blocage de la vidéosurveillance dans les villes qui, effectivement, selon certains maires, ne changera pas grand-chose à la violence, mais peut permettre de mener des enquêtes, d'identifier des personnes?
Alors, le dossier des caméras, c'est un dossier qui est en fait positionné sur une idéologie de la privation de liberté, de l'espionnage, etc. Il faut sortir de ce dogme-là, car dire que les caméras, soit ça sert à rien, soit c'est pas efficace, c'est factuellement faux. C'est un mensonge éhonté. On croule sous les exemples d'affaires résolues grâce aux caméras. Et je vais même une ville de l'Ouest où j'ai rencontré son adjoint à la sécurité qui m'a dit « Nous avons empêché un viol grâce aux caméras. » Donc, quand bien même il n'y en aurait qu'un, moi je mettrais des caméras. Donc, les caméras, elles sont utiles à condition d'avoir effectivement un dispositif, c'est-à-dire des gens qui regardent les caméras et des gens qui, sur le terrain, peuvent intervenir. Effectivement, si vous mettez des caméras avec personne derrière et pas de policiers municipaux, ça ne sert à rien. Mais si vous mettez ce triptyque opérateur caméra avec un réseau de caméras, hein, parce qu'on a à Rennes, un paquet de caméras qui se battent en duel, et aussi des policiers municipaux qui peuvent être guidés sur le terrain, en fait, vous déployez un système qui, là, devient efficace. Et c'est ce qu'on n'a pas à Rennes.
Il faut sortir du dogme, on entend beaucoup, alors à gauche, hein, d'opposition sur le côté coercitif, sur les forces de l'ordre. Parfois, on a entendu aussi des responsables politiques qui voulaient le désarmement des forces de l'ordre. Est-ce qu'il faut sortir du dogme, passer un petit peu des caps? Parce que très souvent, quand on parle sécurité, on parle droite, voire extrême droite. Est-ce qu'il faut sortir, même pour une municipalité de gauche, de ce dogme-là?
Et il faut sortir de ce dogme, nous on l'appelle de nos voeux depuis juin 2020, hein, depuis que moi je suis élu, on n'est pas entendu. Moi je pense plutôt que la sécurité c'est une valeur de gauche parce que c'est aussi une valeur de justice sociale. C'est d'ailleurs dans les valeurs qui m'ont fait rejoindre Horizon, j'étais sensible à la manière dont Édouard Philippe présentait l'ordre. Lui il présente l'ordre comme chemin de liberté. C'est-à-dire que si je prends mon exemple aîné, l'ordre comme possibilité pour une personne âgée d'aller faire ses courses, par exemple à Bourg-l'Évêque, sans être tiré à part son sac à main et finir à l'hôpital. L'ordre comme possibilité d'aller dans le métro sans être harcelé. La sécurité comme être un moyen aussi pour des jeunes de sortir le soir sans craindre de terminer à Pontchaillou aux urgences parce que une bande leur est tombée dessus. Ça, c'est la réalité de ce que vivent aujourd'hui les Rennais. Et tous les médias maintenant s'en font écho. Tout le monde à Rennes connaît quelqu'un aujourd'hui qui s'est fait agresser. Donc l'ordre comme chemin de liberté. Liberté de pouvoir sortir, liberté de pouvoir aller travailler, liberté de pouvoir prendre les transports en commun, liberté de pouvoir prendre son vélo sans se le faire voler, parce que c'est aussi un fléau à Rennes. Voilà, c'est cette notion de liberté d'ordre, comme chemin de liberté qui me plaît.
Alors, avec une société qui devient très, très difficile à vivre aujourd'hui, on le voit, hein, je le disais tout à l'heure, dans les grandes villes, mais ça gagne aussi un petit peu les campagnes, là aussi le trafic de stupéfiants, toujours et encore. Et puis, il y a ce sursaut des citoyens qui, d'ailleurs, quelle que soit leur sensibilité politique, qui aspirent à plus de calme, à plus de sécurité. Hein, vous y faisiez référence à l'instant, Charles Compagnon. Est-ce qu'il faudra un changement politique? Alors, est-ce qu'on peut imaginer que demain, il y a des municipalités, alors on va prendre le cas de Rennes évidemment, est-ce que demain on peut tourner la page de Nathalie Appéré et avoir une autre sensibilité à la tête de la ville qui, à la limite, pourrait détricoter un petit peu ce qui a été fait jusqu'à présent, avoir une autre politique?
Je crois qu'aujourd'hui c'est effectivement une aspiration des Rennaises et des Rennais, pas de tout changer parce que tout... tout ne va pas mal à Rennes non plus. Hein.
On a une ville
qui est incroyable et si je me bats pour elle, c'est véritablement que moi je la trouve incroyable et je trouve que c'est la plus belle des villes de France.
Vous n'allez pas vous faire que des amis. Hein.
Non, mais je l'assume, j'assume d'être le délégué de Rennes en Bretagne. Et on a des très belles villes en Bretagne, mais moi je suis amoureux de Rennes. Et tout ne va pas mal à Rennes. Par contre, quand je vais toutes les semaines, vous l'avez rappelé, à la rencontre des Rennaises et des Rennais, et là encore, je suis allé hier, d'ailleurs, au quartier sud, pour parler circulation et de ce fameux garagiste qui a vu sa taxe multipliée par 10 de stationnement. Quand je vais à la rencontre des Rennaises et des Rennais, Stéphane, je vois une demande d'une proposition d'un autre avenir pour Rennes. Un autre axe où, effectivement, on ne met pas la propreté de côté. On remet l'économie au cœur du système aussi. On parle emploi. On libère... Alors, c'est une expression un peu galvaudée, mais on libère les énergies. Mmh. Aujourd'hui, si on n'est pas... Allez, je vais le dire. Si on n'est pas copain avec la majorité, il n'y a pas de possibilité de s'épanouir à Rennes. Aujourd'hui, moi, je veux un épanouissement pour tous. Qu'on soit copain avec Charles Compagnon ou pas, on va pouvoir s'épanouir à Rennes. Ça, c'est une vraie demande des Rennaises et des Rennais. Donc oui, je pense qu'il n'a jamais été aussi possible d'avoir une alternance à Rennes ou en tout cas une autre politique pour la capitale bretonne.
Alors, autre politique, avec beaucoup de chantiers, vous faisiez référence tout à l'heure à la circulation à Rennes, par exemple, aux mobilités, ça devient difficile aujourd'hui de circuler dans Rennes, et les commerçants s'en plaignent d'ailleurs.
Mais ils ont raison, parce que il suffit juste de faire son expérience. Alors, que ça soit d'ailleurs en vélo, à pied ou en voiture, c'est difficile de circuler
parfois dangereux,
à Rennes. Parfois, malheureusement, on a régulièrement des accidents extrêmement graves et parfois même qui entraînent la mort de certains usagers. Parce que, en fait, la politique des mobilités qui est défendue est une politique d'opposition. C'est-à-dire, je fais, en caricaturant, la chasse à la voiture. La voiture est l'ennemi diabolique de la politique des mobilités rennaises. Et en fait, on oppose les usagers. Ce qu'on défend, nous, c'est une ville partagée par les usagers. Si je peux prendre mon vélo, si je suis en capacité de prendre mon vélo, eh bien je prends mon vélo. Si je vais à pied, je vais à pied. On a un métro qui marche plutôt pas mal maintenant. On prend le métro, mais il y a des cas où les gens vont devoir prendre leur véhicule. Et je voyais encore, en venant vous voir ce matin, ces milliers de voitures qui venaient de Saint-Brieuc, qui venaient des Côtes d'Armor. Et ces gens-là, le métro ne va pas jusqu'à Quessois pour venir chez nous.
J'aimerais bien.
Donc voilà, il faut prendre en compte toutes les mobilités et pas stigmatiser un type d'usager, en fait.
Voilà, là aussi, il faut casser les dogmes, il faut avoir une politique d'ouverture, de cohabitation des différentes formes de mobilité.
Ben, quand on crée des bouchons de manière, et c'est assumé, hein, c'est dit par la majoritaire, quand on crée volontairement des bouchons, quand on met des avenues rennaises qui ont 6-8 000 véhicules par jour, quand on met des sens interdits sur 10 mètres, hein, faut que vos auditeurs entendent, 10 mètres un sens interdit qui font faire des contournements de plus d'un kilomètre 5. D'ailleurs, je me demande où est l'intérêt écologique dans tout ça. On peut se poser la question de savoir est-ce que c'est pas véritablement fait pour embêter les gens, les dégoûter. Et si vous dégoûtez les gens de venir à Rennes, effectivement, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, les commerçants vont être les premières victimes, sont les premières victimes, en fait, de cette politique d'exclusion, finalement.
Il va comment le commerce à Rennes aujourd'hui ? Est-ce que là aussi, il y a une embellie ou est-ce que ça se maintient ou est-ce qu'il y a des difficultés ?
Les derniers chiffres qui m'ont été communiqués sont pas bons. Donc, il n'y a pas une reprise, en tout cas, il n'y a pas un enthousiasme autour du commerce rennais. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Les vacances sont historiques à Rennes. Hein, le taux de vacances est le plus fort qu'il n'a jamais été à Rennes. Donc, voilà un indicateur factuel et pas subjectif. Je vais à la rencontre des commerçants, ils sont relativement inquiets. Il y a la suppression du parking Vilaine, qui est un véritable poumon pour eux, qui les inquiète énormément.
Alors, pour les auditeurs, la suppression du parking Vilaine, c'est ce parking qui était au-dessus de la Vilaine.
Alors, c'est un parking qui est toujours, pour l'instant, au-dessus de la Vilaine et qui a 246 places et avec un taux de rotation à peu près de 7 véhicules par jour. Donc, en gros, c'est un endroit qui accueille à peu près 1500-1700 véhicules par jour. C'est un peu l'arrêt minute du centre-ville, voilà, si on veut caricaturer.
Et donc, parking qui va être déconstruit.
Qui va être déconstruit, qui va être supprimé, ça coûtera entre 25 et 30 millions d'euros pour finalement empêcher les gens de venir venir rapidement à Rennes. Et ça ne touche pas d'ailleurs, Stéphane, que les commerçants, ça touche les professionnels, les avocats, les experts comptables, les médecins qui sont tout autour de ce parking.
Avec aussi une question, c'est comment vivre Rennes aujourd'hui ? Il y a les habitants, les Rennais qui sont installés en cœur de ville, et puis il y a ceux qui ont du mal à trouver des logements, des jeunes couples qui s'installent, des personnes qui sont seules avec enfants par exemple, qui sont un peu plus dans la précarité, qui ont du mal à se loger à Rennes. Il faut aussi avoir une politique, j'allais presque dire sociale à ce niveau-là, une politique du logement à Rennes.
La politique du logement à Rennes, je vais peut-être vous surprendre, mais elle ne doit pas être vue à l'échelle de Rennes. Aujourd'hui, la majorité résonne à l'échelle rennaise, réno-rennaise. C'est-à-dire, venez à Rennes et en dehors de Rennes, point de salut. Nous, ce qu'on défend, c'est de dire le logement ne doit pas être vu comme un dossier réno-rennais, il doit être vu à minimum à l'échelle du département. Mais ça veut dire revoir les implantations économiques des entreprises, revoir la mobilité, développer le rail, les mobilités propres pour qu'un jeune couple puisse s'installer, comme vous disiez, à Rennes. Mais s'il a envie d'habiter Montreuil-le-Gard, il faut qu'il puisse habiter Montreuil-le-Gard. Mais s'il habite Montreuil-le-Gard, la politique aujourd'hui de la majorité va l'exclure des services rennais. Il faut penser global, il faut penser équilibre du territoire. Ça peut paraître un peu provocant de dire oui, je suis élu rennais, mais moi je parle pour le bassin, le pays de Rennes, le département, et je dirais même plus généralement la Bretagne. Rennes doit être une ville qui rayonne, qui coopère, plutôt qu'une ville trou noir qui aspire tout le monde et qui au final dit je peux pas loger. Forcément, si on crée un château fort et on veut que tout le monde rentre dedans, à un moment donné, on ne pourra pas loger tout le monde.
C'est aussi un peu le vœu des habitants de Lorient, de Brest ou de Saint-Brieuc, qui se plaignent un peu de cette aspiration rennaise, hein, si vous me permettez le terme.
Aujourd'hui, il y a une politique assez égoïste menée par la majorité qui consiste à dire en dehors de Rennes, point de salut. Ce qui est assez inquiétant, et je ne suis pas le seul à le dire, c'est que la Bretagne a aujourd'hui 3 métropoles. Alors, vous avez vu que j'en ai mis une au sud.
on peut parler de Nantes, voilà, si on peut parler considère Nantes, l'aspect historique.
Il peut être dangereux d'avoir 3 ultra-métropoles, Brest, Rennes et Nantes, qui vont, elles, aspirer tout ce tissu breton de petites villes, de villes moyennes, en concentrant les services, en concentrant l'économie, en concentrant l'habitat. Aujourd'hui, la Bretagne est encore une région habitée. Et moi, je me bats pour qu'elle le reste.
Il faut finalement décentraliser, non plus seulement avec Paris, mais au sein même de la région.
Alors, je suis un affreux girondin au niveau parisien, mais également au niveau de la Bretagne. Et je pense que Rennes doit être généreuse.
Alors, il y a aussi un contexte politique. On parlait tout à l'heure de sécurité, on parlait d'urbanisme, de transport. Il y a aussi un contexte politique aujourd'hui qui est assez inédit, avec une France difficile à gouverner, hein, du fait de la composition du Parlement, de l'Assemblée nationale. On a cette volonté de décentralisation, le disait à l'instant, de la part des élus bretons, et vous en faites partie. Mais finalement, le problème franco-français de la difficulté à gouverner rejaillit aussi sur la Bretagne, c'est-à-dire au niveau des financements, au niveau du fonctionnement, au niveau aussi de ce que l'État donne aux collectivités pour qu'elles fonctionnent. Est-ce qu'il faut revoir tout ça aussi ? Est-ce que là, des élus locaux, des élus régionaux peuvent peser finalement dans la balance ?
Ils doivent le faire, parce qu'on ne peut pas effectivement demander la décentralisation, mais pas avoir les moyens de la faire. Donc il faut aussi que dans la décentralisation, si on décentralise au niveau des responsabilités, il faut qu'on décentralise aussi au niveau des finances, et il faut que l'État donne le moyen aux régions d'appliquer cette politique. Et ça, c'est primordial, que ça soit sur les collectivités territoriales, que ça soit sur les régions, sur les départements. Après, on pourrait parler réforme département-région, c'est un autre sujet, mais il faut... On peut pas.
Ce sujet qui revient régulièrement.
Oui, qui revient régulièrement. Mais on peut pas. Ça peut pas être une incantation, la décentralisation. Il faut lui donner les moyens. Effectivement, tous les élus doivent prendre leur part dans cette revendication-là.
On a entendu Édouard Philippe là-dessus en disant voilà, il fallait donner aux collectivités plus de moyens, plus d'agilité. C'est le terme à la mode aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que dans un avenir proche, ça peut être possible ici en Bretagne ?
Oui, complètement, Complètement. Et d'ailleurs, sur cette demande d'Edouard Philippe, on a un deuxième item qui m'a fait les rejoindre. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de trouver un parti dirigé par un maire, puisque, comme vous m'avez présenté, je suis élu à la ville. Et ce qui me plaît, c'est d'avoir des gens qui résonnent à l'échelle du territoire. Et d'ailleurs, le maire reste encore l'élu préféré des Français. Et effectivement, Edouard Philippe, on sait d'où il parle. Voilà.
Alors justement, les municipales, on a un petit peu évoqué le sujet tout à l'heure. Les municipales, alors vous y pensez, j'imagine, et pas seulement en vous rasant le matin, comme dit la formule. Mais est-ce que là aussi, il y a, j'allais dire du côté d'Horizon, une volonté de réunir finalement le bloc central, peut-être le bloc de droite à Rennes, pour faire face justement à la gauche rennaise et peut-être avoir l'alternance dont vous parliez tout à l'heure en 2026.
Le rassemblement est une condition sine qua non d'alternance. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de rassemblement, il n'y aura aucune alternance à Rennes. Ou en tout cas, il pourrait y avoir une alternance à Rennes, mais qui serait une alternance qui irait à l'extrême gauche, hein, puisque Jean-Luc Mélenchon a jeté son dévolu sur des grandes villes comme celle de Rennes.
C'est une ville d'ailleurs où la gauche est très implantée.
Elle est très implantée politiquement. Aujourd'hui, c'est une ville où, dans les dernières élections municipales, faut quand même rappeler à vos auditeurs qu'il y a quand même 8 Rennais votants sur 10, 8 sur 10, 80%, qui n'ont pas voté pour la majorité actuelle. Soit ils ont voté pour d'autres candidats, soit ils sont restés chez eux. Donc aujourd'hui, il y a à parler à ces gens-là qui n'ont pas été votés. C'est 8 Rennais sur 10 qui n'ont pas voté pour la majorité, et même d'ailleurs ceux qui ont voté pour la majorité, pour leur dire, voilà, il y a un autre avenir possible pour Rennes, à une condition, c'est que cet avenir se dessine dans le cadre d'un rassemblement. C'est une condition sine qua non. Et ce rassemblement, moi je l'appelle de la social-démocratie bretonne à la droite républicaine. Parce que, à l'échelle d'une ville, finalement, nos valeurs, elles sont assez communes. Et on va parler projet de ville. Et effectivement, toute la vision que moi que je défends depuis, avec d'autres depuis 2020, elle se retrouve dans ces tendances politiques-là.
Avec une percée du Rassemblement National, ça c'est assez historique, même si elle est très faible à Rennes, elle a été plus importante à l'échelle de la région, il faut tenir compte de ces électeurs, de ces électrices qui ont envie de renverser la table, qui disent voilà, finalement, on cherche une autre voie, celle du Rassemblement National par exemple, il faut y répondre à ça.
Il faut y répondre. Moi, je leur réponds parce que, encore une fois, je vais les voir toutes les semaines. Donc, j'entends ces inquiétudes. Pendant trop longtemps, les partis en général et les politiques en général ont décidé que certains sujets étaient nauséabonds. Je parle pas des réponses, des sujets. Donc, on a mis des sujets de côté. D'ailleurs, comme pendant longtemps, la droite avait mis l'écologie de côté. D'autres ont mis des sujets comme la sécurité, l'immigration. Voilà, tout un tas de sujets de côté. Et puis, il n'y a qu'un parti qui en parlait. Il ne faut pas s'étonner qu'effectivement, quand on parle de ces sujets-là, les électeurs se tournent vers ce parti-là. Tous les sujets sont bons. C'est juste les réponses qui sont pas bonnes. Donc, moi, je parle à tous les électeurs rennais, quand je les rencontre, je leur demande pas ce qu'ils ont voté la fois d'avant. Et effectivement, les rennais veulent qu'on parle de tous les sujets et qu'on n'en mette pas de côté. Donc moi, je parle à tous les électeurs.
Avec un sujet qui est revenu cet an dernier, vous parliez d'environnement, on voit les effets du réchauffement climatique, on a eu ces fortes pluies qui ont fait déborder la Vilaine d'une façon assez historique, il faut le dire.
J'y étais.
Et vous y étiez, avec certains bâtiments qui ont été construits, peut-être dans des zones où ils n'auraient pas dû être construits, on a vu ces immeubles en cours de construction, d'aménagement, qui se sont retrouvés les pieds dans l'eau. Là aussi, il faudra avoir une politique d'urbanisme, repenser des choses à l'aune de ces changements, de ce changement climatique.
Oui, je vous remercie de me poser la question parce que c'est un événement qui a mis très très en colère, véritablement en colère. Il y a 2 ans, j'ai fait une vidéo, 2-3 ans, j'ai fait une vidéo sur les anciennes terres maraîchères de la Bélangerie, en fait, en disant, voilà, je me situe, j'ai cette vidéo, les gens peuvent la retrouver sur YouTube, sur notre chaîne, où je dis, voilà, je me retrouve au milieu de champs, et dans quelques années, il y aura des immeubles ici, alors qu'on est à côté de l'eau, etc., etc. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu, en disant, mais Charles Compagnon, il est pour la décroissance, etc., etc. Bon, les immeubles, Stéphane Hamon, qui ont été construits après ma vidéo, ont tous été inondés. Mmh. Et quand on écoute les anciens, ils nous disent, mais ces terres-là, dans les années 60, dans les années 50, régulièrement, elles étaient marécageuses. Donc, il faut absolument, et ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur la répartition de l'habitat sur le pays rennais en Bretagne, il faut arrêter d'avoir cette obsession de construire partout, il faut arrêter d'avoir cette obsession de détruire les jardins rennais qui sont des poumons de biodiversité dans la ville, il faut rééquilibrer, il suffit pas juste de planter 30 000 arbres pour dire qu'on a fait de l'écologie, c'est pas vrai. Si on artificialise des sols qui étaient des véritables buvards de débordement, effectivement on arrive à des catastrophes. Avec ce petit bémol pour être juste, que les pluies ont véritablement été exceptionnelles et que effectivement c'est pas forcément la construction qui a fait que ça a débordé partout ailleurs.
Voilà, c'était une forme d'imprudence d'avoir été aussi près de...
C'est une forme d'inconscience.
Mmh. Alors justement, c'est repenser aussi à travers l'histoire, je sais que vous êtes aussi attaché à l'histoire rennaise, évidemment, il faut repenser aussi à travers l'histoire, alors repenser l'urbanisme, repenser la ville, repenser peut-être même, allez, je vais aller très loin, les mentalités.
Repenser les mentalités à l'échelle de la ville.
De la ville, oui.
Donc, demander précisément votre question.
Non, mais à l'aune de l'histoire, on a vu une ville qui a beaucoup bougé, qui a beaucoup changé. Il faut continuer ce changement, mais ne jamais perdre le fil historique, finalement, de la ville.
Alors, repenser les mentalités en se demandant, c'est quoi être rennais aujourd'hui ?
C'était le sens de ma question.
C'est quoi être rennais aujourd'hui ? Quelle est la place de Rennes en Bretagne ? Quelle est la place de Rennes en France, quelle est la place de Rennes en Europe, parce qu'on n'en parle jamais.
Et pourtant, Rennes est très connue, bien au-delà de nos frontières.
Alors, elle est connue, et en même temps, elle souffre d'un déficit de notoriété important. Stéphane Hamon, si vous allez voir quelqu'un à Annecy, qui n'est jamais venu à Rennes, je prends vraiment de l'autre côté, et vous lui dites, voilà, qu'est-ce que Rennes vous inspire ? Quel bâtiment ? Généralement, on est sur un encéphalogramme plat. Les gens ne vont pas vous dire. Si vous interrogez quelqu'un sur Toulouse, il n'a jamais été à Toulouse, il vous dira la ville rose, etc. Bon, éventuellement, il nous parlera du Stade Rennais, mais voilà, ça s'arrête là. Donc, Rennes ne rayonne pas assez. Je dirais, même sur le territoire, il faut aussi faire la promotion de Rennes au niveau national, mais aussi international. Et à ce titre-là, d'ailleurs, un sujet sur lequel vous ne m'interrogez pas, mais qui nous inquiète beaucoup, c'est le destin de l'aéroport de Rennes. Parce qu'à force de faire de la décroissance...
J'allais y venir, mais vous m'avez devancé. Alors justement, cet aéroport de Rennes, il est important pour avoir finalement les liaisons, pour avoir finalement une ouverture vers le monde. Alors évidemment, avec toutes les questions écologiques qui se posent autour, hein, c'est la grande question du moment. C'est important aussi d'avoir un œil sur cette ouverture au monde.
C'est hyper important. On a 70 000 étudiants à Rennes. Enfin, c'est monstrueux, hein, 220 000 habitants, 70 000 étudiants. Et on a beaucoup d'étudiants étrangers. Donc oui, on a la chance d'avoir une LGV extraordinaire à Rennes. On est hyper privilégié. Mais tout ne se fait pas non plus par le train. Donc d'avoir un aéroport qui décline face à des aéroports comme celui de Brest et Nantes qui sont en plein essor... Effectivement, c'est un vrai risque pour la ville, un vrai risque d'enclavement pour la ville. Donc, dans notre groupe, on défend aussi un aéroport qui se développe à Rennes pour relier la ville au monde.
Alors, le monde, c'est aussi la culture à Rennes. Alors, il nous reste une poignée de secondes, mais je voulais vous entendre là-dessus. Une minute, me dit notre réalisateur, sur la culture qui est importante à Rennes. C'est aussi un sujet qui vous tient à cœur. Et tout à l'heure, en rentrant en studio, on m'a dit, je voudrais dire un mot sur ce qui se passe dans le monde des médias, dans le monde de la culture, un peu plus largement que Rennes, avec la fermeture
de C8
ce soir à minuit.
Alors, je me suis jamais exprimé dessus. Je m'exprime... pour la première fois dans un média sur ce sujet. Et effectivement, je suis... parce que voilà, quand vous m'appelez, quand les médias me sollicitent, je viens dans tout type de médias m'exprimer. Et je suis assez inquiet de voir aujourd'hui une chaîne qui ferme. Pour vous dire, moi, je ne regarde pas C8. Voilà. Mais un peu comme le dit Voltaire avec beaucoup d'humilité, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Et je trouve que... fermer une chaîne symboliquement, ça dit quand même quelque chose de notre époque.
Et c'est là-dessus que l'on va conclure. Charles Compagnon, conseiller municipal d'opposition à Rennes, président du groupe Libre d'agir pour Rennes et qui est venu en voiture ce matin pour être au micro de la matinale. Merci infiniment, belle journée.
Merci Stéphane.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.